Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h23, bonjour Thomas Porcher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes économiste, vous publiez Traité d'économie hérétique aux éditions Fayard. Et avec vous, on va revenir sur le fil aussi de ce que fait en ce moment en France le président Macron. Emmanuel Macron menace-t-il selon vous notre modèle social, Thomas Porcher ?
Oui, en partie, parce que c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le livre. Emmanuel Macron, il s'attaque aux retraités, aux pensions de retraite. Il va les diminuer, il va même refonder toutes les retraites. Il coupe quand même dans l'assurance chômage. Il va retirer 10 milliards tout en étendant l'assurance chômage à des nouvelles personnes, ce qui veut dire que les prestations chômage vont être plus faibles ou de plus courte durée. Il coupe dans l'assurance maladie. Il a baissé les appels. Donc il s'attaque quand même à tout un tas d'aides et toute une partie du modèle social, clairement.
Les Français l'ont élu pour ça, non ?
Alors, c'est vrai qu'il l'a toujours dit. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a un modèle social. C'est quoi le modèle social ? On le voit toujours d'un point de vue négatif. Et Emmanuel Macron disait qu'il n'aimait pas le terme de modèle social et que le modèle social n'était pas adapté à la mondialisation. Mais le modèle social, c'est quoi ? C'est l'ensemble des institutions et des législations qui protègent les Français contre les aléas. Il faut le rappeler. Hein, c'est la première des choses. Quand vous êtes un retraité.
Plus un système de protection, on parle de protection sociale.
Quand vous êtes un jeune de 30 ans, que vous avez bac plus 5, vous avez moins besoin du modèle social, parce que vous êtes moins confronté au chômage et vous avez plus de chances d'être en bonne santé. Quand vous êtes un vieux à la retraite, vous utilisez le modèle social, pension de retraite, et vous avez plus de chances d'être malade. Donc il y a des inégalités dans les besoins de ce modèle social. Mais on en aura tous besoin très fortement un jour. Ça, il faut le rappeler. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont cassé leur modèle social très fortement. Le Royaume-Uni les États-Unis, et on voit le résultat aujourd'hui. Il y a eu les inégalités qui ont fortement augmenté. Si leur modèle social n'avait pas bougé, les inégalités seraient 40% plus faibles dans ces pays-là. Et ces inégalités qui ont porté Trump au pouvoir et qui ont porté également le vote du Brexit. Je ne comprends pas pourquoi en France on s'empresse à suivre ce modèle aujourd'hui.
Alors, ça amène deux types de questions. On pourrait dire, du côté d'Emmanuel Macron, son explication à lui, c'est de dire, et celle de ses ministres, c'est nous voulons sauver ce modèle social et c'est pour ça qu'il doit être modernisé et en partie, on va dire, dégraissé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ?
Mais je pense, il y a un chapitre dans mon livre qui
parle. Excusez-moi, je vais très vite et c'est un peu simpliste, mais je dépense trop. Bon, si je veux quand même sauver ma situation, il y a un moment où je dois baisser mes sorties d'argent.
Alors, écoutez, complètement. Et d'ailleurs, hier, sur votre même antenne, Bruno Le Maire évoquait toujours la dette.
Oui.
Griveaux évoque toujours la dette.
La dette comme un poison lent. C'était son terme exact.
Voilà, comme un poison lent, en disant qu'avec cette dette-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de couper dans les dépenses. Alors déjà, la première des choses, c'est que le problème du modèle social, c'est pas un problème qui est trop de dépenses, c'est qu'il y a de moins en moins de rentrées. Il y a eu 130 milliards de baisses de rentrées fiscales sur les 10 dernières années qui ont fait que machinalement les déficits ont augmenté. Vous regardez sur la sécurité sociale, au moment de la crise, vous avez les dépenses qui ont été doublées. Ça veut pas dire que les gens étaient deux fois plus malades. C'est tout simplement comme il y a eu plus de chômage, il y a eu moins de rentrées et les gens ont toujours été autant malades et donc les dépenses
ont augmenté. Oui, c'est un rapport d'entrée et de sortie.
Voilà, c'est un rapport d'entrée et de sortie. Donc il y a des périodes basses où il y aura plus de dépenses et des périodes hautes où il y aura plus de rentrées. Donc vous regardez ça sur ce modèle social. On n'a jamais de financement. Mais on est prêt là, aujourd'hui, à se priver de 20 à 24 milliards de rentrées fiscales avec la baisse de l'IS, avec les cadeaux sur l'ISF, avec la flat tax sur les revenus financiers. Et de l'autre côté, on vous dit, oui, mais on n'a pas les moyens. Donc il y a une espèce de géométrie variable dans l'épouvantail de la dette qui est utilisée quand il s'agit de baisser les impôts. Et c'est pareil chez Trump, là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de couper sur les dépenses de santé, les dépenses de soins, les dépenses dans les crèches ou les hôpitaux, là, la dette, c'est un problème.
Mais vous allez plus loin, c'est que vous expliquez finalement que ce modèle social qu'aujourd'hui on critique, ou qu'on remet en cause, ou qu'on juge trop cher, en quelque sorte, là aussi j'emploie des mots simples pour qualifier la situation, au contraire, il génère de la richesse.
Vous regardez, quand on fait toutes les comparaisons internationales, il y a eu des moments où des pays qui avaient des modèles sociaux forts, comme la Suède, avaient des meilleurs taux de croissance que des pays comme le Japon. Donc, il n'y a pas un lien établi scientifiquement entre le fait qu'on a un modèle social lourd et pas de croissance. C'est faux. Il y a eu des fois où des pays qui n'ont pas de modèle social très élevé, comme les États-Unis, ont plus de croissance, mais d'autres fois où des pays qui ont un modèle social très développé ont eu plus de croissance. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Il n'est pas dans le modèle social, il est dans l'innovation, dans l'investissement, dans les secteurs d'avenir, mais pas dans le modèle social en lui-même.
C'est vrai pour la SNCF et le statut des cheminots, ce que vous êtes en train de me dire ?
Mais le statut des cheminots n'explique pas le problème de la SNCF. Le problème de la SNCF, c'est
exactement ce que nous a dit Philippe Martinez l'autre jour. Il nous a dit, si les trains n'arrivent pas à l'heure ou qu'il y a des difficultés dans les gares, c'est pas parce que nos cheminots sont protégés.
Vous savez, au début, c'était un service public. Donc, l'État couvrait toutes les dettes de la SNCF parce qu'elle voulait la cohésion des territoires. Donc, elle obligeait la SNCF d'investir dans des lignes qui n'étaient pas rentables pour la cohésion du territoire. Dans les années 90, la directive européenne a demandé de libéraliser le secteur du ferroviaire, mais de couvrir la dette. C'est ce que l'Allemagne a fait. Elle a couvert 35 milliards de dettes. Nous, on a refusé de le faire. Et aujourd'hui, on agite ce chiffon de la dette pour réformer le statut des cheminots. C'est pas à cause des cheminots qu'il y a cette dette. C'est pas non plus aussi à cause des salariés que EDF a une dette. Parce qu'Emmanuel Macron avait dit que c'était les salariés, à cause des salariés d'EDF que EDF avait une grosse dette. C'est
alors,
pas le cas.
Vous venez finalement de nous dire que le modèle social participe, selon vous, à notre croissance. Et ça veut dire que vous ne croyez pas au pari d'Emmanuel Macron que la baisse des charges patronales, que la suppression de l'ISF va orienter l'épargne vers l'investissement?
Je n'y crois pas pour la bonne et simple raison que ça a déjà été fait. En fait, ça a déjà été fait. Les États-Unis l'ont fait très fortement dans les années 80. Le Royaume-Uni l'a fait très fortement dans les années 80, on s'est rendu compte que là, ça a créé de la richesse, certes, beaucoup plus que chez nous, mais cette richesse a été captée par les 1%. Et déjà, vous savez, chez nous, les 30 dernières années, la richesse qui a été créée a été captée plus par les 1% que le reste de la population. Les 1% ont vu leurs revenus augmenter de 100%, le reste de la population seulement de 25%. Donc c'est bien de créer de la richesse, mais il faut voir à qui elle profite. Et ça, on voit bien encore une fois le résultat 30 ans après de ces politiques menées, c'est que Trump a fait sa politique sur les classes défavorisées et a été élu. Et je ne veux pas, moi, d'un résultat comme ça pour la France dans 20 ans.
Le sous-titre de votre livre, c'est « En finir avec le discours dominant ». Oui. Alors, le discours dominant, c'est celui, j'allais dire, que j'exprime un peu, de façon un peu carrée en ce moment même sur « il y a des logiques, il y a des entrées, il y a des sorties d'argent », ce qu'évidemment, vous ne contestez pas. Mais vous expliquez que cette vision des choses nous conduit en permanence à rester dans des logiques auxquelles on échappe. Alors, est-ce que ça veut dire que Thomas Porcher assume d'être, je ne sais pas, un utopiste, un doux rêveur, un dangereux irrationnel?
Non, justement, c'est ce qu'on essaie
de dire. Ce sont vos mots, hein?
Oui. Oui,
non, mais
exactement.
Vous les utilisez à contrario. Mais...
Oui, j'avais bien remarqué que c'était mes mots, c'est ce que je disais dans le livre. Non, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un cadre de pensée avec des limites à ce cadre, qui sont la dette, qui sont les déficits, qui sont la mondialisation. On ne peut pas faire autrement. Et donc, ce cadre-là vous amène à finalement un champ des possibilités qui est extrêmement faible. Et le champ des possibilités, c'est ce que propose Emmanuel Macron. Ça a déjà été fait. Il dit voilà, on doit réformer le modèle social, on doit couper, on doit flexibiliser. Voilà, c'est ça.
Pardonnez-moi, mais ça paraît logique. Hein.
Oui, mais non, en réalité.
Ou alors, je suis borné.
Écoutez. Quand des gens ont demandé la quatrième semaine de congé, certains ne leur ont pas dit, mais vous êtes complètement fou. Quand on a demandé la cinquième, on ne leur a pas dit ça. Aujourd'hui, on a la cinquième. Pourquoi on n'a pas le droit de demander la sixième? Vous voyez, quand on a créé la sécurité sociale, on était très endettés, on avait 200% de dette. Personne ne nous a dit, mais vous êtes fou. On avait 200% de dette, deux fois plus. Mmh. Vous voyez, donc, on parle beaucoup de la dette publique, mais la dette privée, elle est à combien? La dette des ménages,
oui.
Elle est à 120% du PIB, alors que les ménages et les entreprises ont une durée de vie quand même plus faible que les États. Donc, vous voyez, moi, ce que je dis, c'est que j'essaye d'amener dans le débat des éléments pour que le débat puisse augmenter et qu'il ne soit pas rétréci.
Et c'est avec grand plaisir qu'on peut en quelque sorte débattre et réfléchir avec vous à cette situation, traité d'économie hérétique. C'est le dernier livre de Thomas Porcher, En finir avec le discours dominant, et il vient de paraître chez Fayard. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur RTL, Thomas Porcher. Bonne journée.